frère a déjà prié pour que nous puissions bien écouter avec l'Esprit Saint en nous. Oui, Seigneur, on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de ton esprit pour comprendre ta parole. Alors, fais ton œuvre en nous, Seigneur, s'il te plaît. Voilà, le message que vous allez entendre aujourd'hui est largement inspiré du commentaire de l'évangile de Jean de Frédéric Godet. C'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'il est très profond et son commentaire date de 1970, mais il n'a pas vieilli. Je vous propose donc de méditer aujourd'hui sur la première partie de la prière sacerdotale, c'est-à-dire les versets 1 à 5 du chapitre 17 de Jean. Donc, ceux qui ont la Bible, c'est bien que vous puissiez l'ouvrir. Mais il est important de voir le contexte dans lequel Jésus a adressé cette prière à son Père. Donc je lirai donc à partir du verset 25 du chapitre 16. Voilà, donc Jean chapitre 16, à partir du verset 25, et puis je continuerai après chapitre 17, les versets 1 à 5. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Les derniers versets du chapitre 16 de Jean constituent la fin d'un long entretien de Jésus avec ses disciples. Après leur avoir lavé les pieds et annoncé la trahison de Judas et le reniement de Pierre, c'était au chapitre 13, Jésus les exhorte, répond à quelques questions et leur annonce qu'il va les quitter. Chapitre 16, 5. Comme vous l'avez entendu, les disciples pleureront, ils seront dans la tristesse, ils seront dispersés et connaîtront des tribulations. Mais Jésus les encourage. en disant « Moi, j'ai vaincu le monde ». De quelle victoire Jésus parle-t-il? Cette victoire, déjà remportée, est une victoire intérieure. Il a résisté aux attraits du monde, aux tentations, et surmonté ses terreurs au jardin de Gethsémané. Mais de plus, cette victoire morale va se réaliser concrètement dans l'œuvre rédemptrice, sur la croix qu'il a acceptée d'avance, cette croix qui marque définitivement la défaite du monde. En effet, Jésus n'est pas resté prisonnier du tombeau. Il est ressuscité et il vit à jamais. Voilà donc le contexte. Ensuite vient le texte de la prière sacerdotale dont nous allons étudier la première partie. Et tout de suite après, ce texte, c'est l'arrestation de Jésus. Je fais juste une remarque. Pourquoi a-t-on appelé cette prière sacerdotale? Le sacerdoce, c'est ce qui définit la fonction du prêtre. Dans l'ancienne alliance, elle consistait, entre autres, à offrir des sacrifices à Dieu. La mort qu'on lui inflige, Jésus l'accepte. Il l'offre lui-même comme le prêtre offrait la victime dans l'ancienne alliance. C'est donc l'acte du souverain sacrificateur de l'humanité qui offre son sacrifice. Mais il s'offre lui-même à Dieu. Dans la première partie de sa prière, Jésus prie pour lui. Remarquons qu'il prie à haute voix. Cela signifie que tout en parlant à Dieu, il parle aussi pour ses disciples qui l'entourent. Non pas pour leur montrer comment il prie, mais c'est une façon de les associer à la relation intime qu'il entretient avec son Père. Et peut-être de les entraîner à prier avec lui. C'est comme une anticipation de la communion de gloire qu'il demande pour eux au verset 24 que je cite. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils comprennent, qu'ils contemplent ma gloire. » Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lorsque Jésus prie pour lui, dans les versets 1 et 2, ce n'est pas sa propre personne qui l'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Lorsque, au début de sa prière, Jésus dit « L'heure est venue », il parle de sa mort, bien sûr. Mais pour que cette mort aboutisse à la glorification du Fils, il faudra l'intervention du Père. Pour bien comprendre, pourquoi Jésus demande à son Père de le glorifier? Il faut lire le verset 5. Je vous le relis. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La traduction parole vivante de ce passage est plus précise dans ce que Jésus demande, et je vous le lis. Et maintenant, Père, revêt-moi de ta gloire en ta présence. Rends-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant le commencement du monde. On le voit, le but de sa demande n'est pas pour sa propre satisfaction, mais pour la continuation et l'achèvement de son œuvre. En effet, ce que Jésus veut, c'est un nouveau moyen d'agir. Il demande donc la réintégration de son état divin. Il demande la possession de la toute-présence, de la toute-science, de la toute-puissance divine dont il s'était dépouillé pour s'approprier un état humain véritable. Il ne peut continuer à glorifier Dieu et développer l'œuvre du salut qu'à cette condition. Son état personnel doit se transformer, comme il s'est transformé quand Jésus est passé de l'état divin à l'existence humaine. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus retrouve son statut divin ? Pour qu'il puisse envoyer son esprit sur les hommes. Pour qu'il puisse envoyer son esprit sur les hommes. C'est ce que dit Pierre à une grande foule au moment de l'événement de la Pentecôte. Je cite, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et quoi ? Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Acte 2:32. Il était indispensable que Jésus répande son Esprit sur les hommes. En effet, c'est l'œuvre de l'Esprit en eux qui permet aux hommes de reconnaître qu'ils sont pécheurs aux yeux de Dieu. C'est ce même Esprit qui les pousse à se repentir. C'est toujours ce même Esprit qui leur fait comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix et qui leur révèle que Jésus est le seul Sauveur et leur Seigneur. Sans l'intervention de l'Esprit, la raison est incapable de comprendre ces choses-là. Et je vous renvoie à Romains 8, 7. Au verset 2, Jésus rappelle au Père ce qui lui donne le droit de demander « Glorifie-moi ». En effet, c'est le Père lui-même qui a donné à son Fils la souveraineté sur l'humanité tout entière lorsqu'il l'a envoyé remplir sur la terre sa mission de sauveur. Paul écrit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, la volonté de Dieu, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, Jésus, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, deux points, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Éphésiens 1, 9, 10. L'œuvre de salut que Jésus a à remplir au sein de l'humanité a en effet pour condition sa position particulière. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit Jésus. À quoi ce pouvoir a-t-il servi? À donner l'autorité à Jésus. À donner à Jésus l'autorité pour donner l'ordre à ses disciples de tous les temps, de faire des disciples de toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Jésus demande donc à son Père de le glorifier, afin qu'il puisse donner la vie à ceux qu'il, le Père, lui a donnés. En effet, le vrai moyen de glorifier Dieu, c'est de communiquer la vie éternelle aux hommes, c'est-à-dire de les associer à la vie de Dieu. Que faut-il comprendre dans l'expression « tous ceux que tu lui as donnés, tous ceux » ? Est-ce le même sens que toute chair? Non. Tout ce que tu lui as donné ne se rapporte qu'aux croyants. Jésus a bien reçu la puissance sur tout homme, c'est-à-dire sur toute chair. Mais sa mission est de sauver les croyants. Paul l'exprime ainsi. Dieu a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Le corps de Christ, ce n'est pas le monde, c'est l'Église, c'est-à-dire le rassemblement des croyants. Que dit le verset 3 ? La vie éternelle, c'est que ceux que tu m'as donnés te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset, Jésus définit la vie éternelle d'une façon bien différente de celle qui nous vient spontanément à l'esprit. La vie éternelle pour beaucoup de chrétiens, c'est la vie avec Christ dans le royaume de Dieu. Après la mort. Cette vision de la vie éternelle n'est pas fausse, mais elle est tronquée. Elle est limitée à l'au-delà. Alors que Jésus l'a fait commencer sur cette terre. Dès lors que le croyant connaît Dieu et Jésus-Christ, connaît. Dans la phrase de Jésus, la vie éternelle, c'est que ceux que tu m'as donné te connaissent. Le verbe connaître, comme je l'avais dit il y a 3 semaines, à propos du Fils, à propos du bon berger, doit être compris dans le sens que l'Écriture lui donne. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance? C'est une connaissance intime, profonde, telle que Jésus en parle dans Jean 14, 20, que je cite. Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui. Vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi que vous vivez en moi et que je vis en vous. J'insiste sur cette intimité voulue par Dieu, mais qui n'est pas toujours prise au pied de la lettre. Écoutons ce qu'écrit Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Et 3 chapitres plus loin, Paul est encore plus précis. Je cite, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » 1 Corinthiens 6,19. Quel mystère, frères et sœurs. Et quelle intimité voulue par Dieu. Christ vit en nous par son esprit. Venons-en aux 2 derniers versets, je cite. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Au verset 1, Jésus demandait à son Père de le glorifier pour l'œuvre qu'il avait à faire, c'est-à-dire donner la vie éternelle à tous les hommes que son Père lui avait donnée. Au verset 4, Jésus demande à son Père de le glorifier pour tout ce qu'il a déjà accompli sur la terre. Dans sa condition terrestre, il a glorifié Dieu. Il a fait briller dans le cœur des hommes son caractère saint et bon, le caractère de Dieu. Et pour poursuivre son œuvre de salut, il a besoin de revenir à l'état divin qu'il avait avant son incarnation. Remarquons que Jésus ne demande pas à son Père une chose exceptionnelle. En effet, la gloire divine à laquelle il avait volontairement renoncé pour servir Dieu sur terre, cette gloire éternelle appartient à son essence même. Comme il a été dit plus haut, en retrouvant son état divin, Jésus-Christ peut poursuivre l'œuvre de salut qu'il avait commencée sur la terre, en répandant son esprit sur les hommes. C'est exactement le sens de l'ascension et, 10 jours après, de Pentecôte. Il semble que, communautairement, nous ayons oublié le sens profond de l'ascension. Puisque depuis de nombreuses années, nous ne fêtons plus ce jour qui est pourtant si important et qui est intimement lié à Pentecôte que nous allons fêter dimanche prochain. Souvenons-nous en effet des paroles rapportées par Luc que Jésus adresse à ses disciples, je cite, « Comme Jésus se trouvait avec eux, ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 4. De même que sans Noël que nous fêtons, Vendredi Saint et Pâques que nous fêtons aussi n'existeraient pas. De même, sans l'Ascension, Pentecôte n'existerait pas non plus. Frères et sœurs, Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint. Que serions-nous sans l'Esprit Saint ? Que nos prières sachent glorifier notre divin Sauveur pour l'œuvre de salut qu'il a accomplie sur terre et qu'il poursuit toujours depuis son trône de gloire jusqu'à son retour. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous entendions ouvre notre cœur, Seigneur, pour que nous comprenions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as réalisé.